Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau podcast d'Implante ta marque.
Chaque mois, nous vous présentons une marque inspirante qui nous partage son parcours et nous livre ses astuces qui lui ont permis d'en arriver là.
Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.
Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Étienne, créateur de la marque Ecob. Suite au podcast, allez faire un tour sur son site ou compte Instagram, nous vous avons mis les liens dans les notes.
Voici une présentation rapide d'Ecob. Ecob, c'est l'histoire de deux frères, Étienne et Valentin, qui ont uni leur savoir-faire pour fabriquer une gourde suite à leur constat que la France est le cinquième consommateur mondial de bouteilles en plastique. Mais ce n'est pas n'importe quelle gourde, c'est une gourde durable, faite à partir de matériaux recyclés et saines pour l'homme. Leur souhait est de permettre à un maximum de personnes d'adopter un geste éco-responsable au quotidien.
Nous vous invitons à écouter ce podcast jusqu'au bout, car vous retrouverez de nombreuses astuces pour tous les entrepreneurs. Pour nous contacter, rendez-vous sur le site d'Implantamark ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
Bonjour.
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 Bienvenue.
Enchantée.
Du coup, Étienne, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous, nous raconter justement quelle est votre entreprise, l'histoire un petit peu de l'entreprise et de votre parcours à vous?
Alors, pour commencer, je vais parler un peu de moi. Je sors d'une famille d'entrepreneurs. Donc, depuis tout petit, c'était quelque chose d'assez logique. Je me souviens qu'en sixième, je savais déjà que je voulais faire une école de commerce. Enfin, j'étais déjà assez conditionné pour. J'ai réalisé tout ça. J'ai fait du coup un bac, une école de commerce assez classique où j'ai plus profité de la vie que appris des choses. Et en sortant de cette école, j'avais une dernière année à New York où j'ai pu profiter des États-Unis. Et à ce moment-là, avant d'y aller, j'avais vraiment la volonté de gagner plein d'argent, de travailler dur, mais surtout de monter un gros business. J'avais que ça en tête. Je voulais monter un gros business, une grosse boîte, cartonne, etc. En partant là-bas, à New York, j'ai eu un petit déclic sur le marketing, sur toutes ces choses-là, où finalement, je me suis posé la question, est-ce que je peux juste égoïstement gagner plein d'argent sans apporter de solutions concrètes à notre société? Ou est-ce que le challenge, c'est pas plutôt de s'attaquer à des enjeux sociétaux, environnementaux et autres pour gagner de l'argent, effectivement, mais pour apporter une vraie réponse? Donc, j'ai vécu pendant mes études ce grand dilemme où je passais d'une volonté purement capitaliste à se dire, écoute, peut-être que la mission elle est un peu plus globale, peut-être que je serai un peu plus heureux en essayant d'apporter une solution aux gens. Et du coup, à la sortie de mes études, j'ai cherché du travail, mais j'ai cherché dans un domaine qui pourrait me plaire, qui pourrait répondre à tous ces enjeux. Donc, j'ai travaillé à la PAV, qui est une grande entreprise, où je développais des logements adaptés pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on créait des lieux de vie pour que les personnes vieillissantes puissent rester le plus longtemps possible chez elles, avec tous les services qui vont autour, on peut rattacher, donc avec les infirmières, la pharmacie. On crée vraiment un écosystème avec la ville, avec des fonds d'investissement, avec des bailleurs sociaux, pour permettre aux personnes de vieillir le plus longtemps possible chez elles. Je trouvais ce projet génial. Sur le papier, c'était hyper intéressant. Ça remplissait toutes les cases de ce que je souhaitais. Sauf que il s'avère qu'on travaillait avec beaucoup de politiques, beaucoup de fonds d'investissement. Et ça rendait les choses très compliquées. Parce qu'on parlait de plein de belles choses, de plein de beaux projets. Mais qu'il s'agissait de les concrétiser, de tout mettre en place, et ben ça prenait énormément de temps. C'était hyper compliqué. Et on sentait que pour plusieurs de ces acteurs, la santé des gens et leur place n'étaient pas la priorité. On était plus sur soit des électeurs, soit de la rentabilité. Donc, au bout d'un an et demi, je leur dis merci pour tout, pour toute cette expérience, mais moi, je m'en vais. Et un peu du jour au lendemain, j'appelle mon petit frère Valentin, qui lui est designer, encore étudiant en école de design. Je lui dis... écoute, moi, j'ai besoin de concret, là, vendre des projets, des trucs, c'est plus possible. J'ai dit, j'ai envie de fabriquer quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Enfin, j'avais une vague idée et je lui dis, aujourd'hui, je n'ai pas de gourde, je ne trouve pas de gourde qui me plaise, viens, on fabrique une gourde. Donc, tout est parti vraiment d'un appel un matin, viens, on fait une gourde. Il m'a dit, ouais, chaud. Et on est parti d'une feuille complètement blanche, c'est-à-dire que l'industrialisation d'un projet, tout, j'y connaissais strictement rien. Et bah, on s'est lancé pour créer ECOB, la gourde recyclée, qui est donc une gourde en verre recyclé avec une housse en tissu liège, qu'on a vraiment pensé de façon pratique et éco-responsable. On a voulu la faire le plus intelligemment possible, le plus logique possible. Et voilà un peu ce qu'on a créé, quoi.
Parce que vous avez raison, on n'y a jamais la gourde parfaite.
Non, jamais.
Moi, la mienne, elle vieillit mal, elle est nulle.
Donc, ouais, c'est de l'inox,
c'est nul.
C'est mauvais pour la santé. Nous, si on a créé une gourde en verre, le premier critère qu'on a pris, c'était l'aspect santé. Et on s'est dit, les personnes qui vont les utiliser, c'est nos proches, ma copine, ma famille, etc. Je veux pas être responsable d'un cancer dans 10 ans. Parce qu'on boit dans un truc en métal avec des métaux lourds dedans qui se décomposent et qui, en plus de ça, est très peu éco-responsable. C'est-à-dire qu'il faut 3 ans d'utilisation pour arriver à compenser son empreinte carbone.
Oui.
Une gourde en verre, c'est 2 mois. Et très honnêtement, sans vouloir faire la promotion de ma gourde, le plaisir qu'on a à boire avec notre gourde, il n'a rien à voir avec les autres. On l'a étudié de façon... On a étudié les goulots de bouteilles de Badoit pour que ce soit le plus agréable possible au niveau de la taille, de boire, etc., etc. Donc voilà.
Vous êtes jeune?
Ouais.
Et ça n'a pas été justement... ça a été un frein ou une motivation?
J'ai souvent entendu que ce soit mon père, ma tante, mon oncle parler d'entrepreneuriat et de dire aujourd'hui, j'ai plus la force de lancer un nouveau projet. Je ne comprenais pas comment on ne pouvait pas avoir la force. Et maintenant que je suis dedans, je vois que passer par tous ces échecs, toutes ces... complications, etc., il faut quand même du moral et il faut de l'énergie. Donc, je pense qu'être jeune, effectivement, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a offert énormément de naïveté qui n'a pas payé tout de suite, mais qui nous a permis de rester dans notre ligne directrice. Et oui, la jeunesse nous a fortement aidé, mais l'expérience de nos aînés nous a beaucoup, beaucoup aidé aussi.
Pas sûr, oui. Mais effectivement, il faut être jeune pour avoir la force de monter des bons projets quand on voit ce qui nous attend.
Surtout quand on part de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis le mieux, si j'avais voulu monter une marque de gourde, c'est de travailler dans le milieu. Si demain, j'ai envie de faire des enceintes de musique, eh ben, je vais aller travailler dans un magasin de musique et apprendre et gagner en expérience. Nous, là où c'était un peu compliqué peut-être, et heureusement qu'on était jeunes, c'est qu'on est parti d'une page blanche. Et du coup, bah, tu dois tout apprendre.
Oui, mais vous avez parlé de naïveté. Et je pense que du coup, cette naïveté-là est un réel atout parce qu'on ne se rend pas compte des contraintes. Et justement, c'est ce qui fait aussi bouger les codes.
Oui, donc, c'est clair.
Donc peut-être, heureusement, que vous n'y connaissiez rien en gourde finalement.
Et donc, dans votre parcours, vous nous avez bien dit que votre projet est parti de vos valeurs, etc. Donc, du coup, quelles sont les valeurs qui représentent actuellement ECOB?
Nos valeurs, elles sont assez simples. Comme je le disais, il y a ce dilemme qui s'est posé devant moi où soit je pouvais reprendre une des boîtes familiales, soit je créais mon propre chemin. Je respecte beaucoup tout ce qui a été fait dans ma famille, mais ça va complètement à l'opposé de ce qu'on propose chez ECOB. C'est-à-dire qu'on est dans l'automobile, on est dans la moto, on est dans la grande distribution, on est dans des choses qui ne rentrent pas dans les valeurs ECOB. Aujourd'hui, nous, on avait à cœur de trouver des solutions pour la société. On avait à cœur de proposer une vision de la vie plus logique, plus simple, moins marketing, moins mouton. Et c'est vraiment autour de ça qu'on a fédéré notre produit. Moi, je suis encore le plus ouvert, le plus simple avec qui vous pouvez discuter. Mais si vous prenez Valentin, qui est sur Paris et qui ne peut pas être là aujourd'hui, lui, il est très, très tranché sur la façon dont il voit le monde et comment tout peut l'énerver autour du marketing, autour du bourrage de crâne, autour de la publicité. Lui, il veut revenir à des choses simples. Il se dit pourquoi on prend une bouteille qu'on va acheter tous les jours et jeter alors qu'on peut en avoir une qu'on remplit. Et tout ce qu'on va faire, tous les objets qu'on va créer, ils vont rester dans cette logique. On veut rester simple et logique, au plus efficace. On ne veut pas perdre en praticité parce que souvent, le défi écologique, il passe par des efforts supplémentaires. Et on dit que nos excès de consommation, elles permettent de pallier à un manque d'envie, tout simplement. Nous, on veut proposer des objets qui vont être aussi pratiques que ce que vous avez au quotidien, mais qui sont juste plus intelligents, plus logiques et plus simples. Donc voilà, c'est vraiment autour de ça nos valeurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est éco-responsable. On utilise des matériaux recyclés parce qu'il y a des matériaux à recycler. Je ne vois pas pourquoi on en créerait si on peut utiliser des matériaux recyclés. Donc, c'est dans toute cette dynamique qu'on veut s'inscrire.
Tout à fait, et c'est important de rappeler que en communication et en marketing, on peut être tout d'abord simple, comme vous l'avez dit, c'est un choix, et on peut aussi surtout être éco-responsable. On peut faire une entreprise et le tourner autour de valeurs et aussi communiquer et essayer de vendre justement autour de ce côté et de cette valeur éco-responsable.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai qu'on a toujours désigné la pub, le marketing comme la bête noire, etc. Et en fait, non. Pas forcément, au contraire, ça doit aider à promouvoir nos valeurs et les valeurs du projet intelligent, quoi.
Tout dépend du marketing, de ce qu'on entend par marketing. Mmh. Aujourd'hui, c'est impossible pour une entreprise de vendre un produit sans communiquer. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel, il faut vivre avec son temps. Maintenant, plus on va être honnête et transparent, je pense, plus on va arriver à toucher des gens et à engager des gens. Nous, un des aspects dont on est très fiers sur notre communication, c'est qu'on a un compte Instagram qui parle de gourdes, donc une gourde, et on a 4500 personnes avec entre 150 et 400 likes par post de gourdes. C'est-à-dire qu'on est arrivé à engager des gens sur un sujet qui moi-même ne me passionne pas, quoi. Je veux dire, voir des gourdes. Et en fait, on se rend compte que c'est toute l'histoire qu'on donne derrière, c'est toute notre vision, ce qu'on propose aux gens, la façon dont on voit le monde, qui leur plaît et qui leur donne envie d'interagir avec nous, quoi.
Et vous ne vendez pas des gourdes, vous communiquez sur des valeurs qui rassemblent.
Oui, c'est exactement ça. Mais c'est très difficile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de valeurs, de missions, de toutes ces choses-là. Et on se rend, des fois on le travaille trop, des fois on le recherche trop, des fois on brainstorm trop sur c'est quoi nos valeurs, il faut bien les poser, etc. Et elles sont beaucoup plus simples que ce qu'on pense. On cherche des fois des choses très compliquées, alors que nos valeurs, c'est vraiment ce en quoi on croit. Et ça ne sort que quand on est honnête et quand on est nous-mêmes. Si on veut créer des valeurs, c'est plus compliqué, je trouve. Enfin, ça prend moins bien.
Ça, c'est sûr. Et du coup, comment vous est venu le nom ECOB, le logo et la charte, l'identité?
Le nom, il est venu, je crois que c'est le premier qui est sorti. On avait testé pas mal de trucs. ECOB, c'était éco-bouteille, c'était assez simple. Et au final, c'est resté parce que ça sonnait bien et qu'on aimait bien ça. Le logo, on a travaillé avec un pote graphiste. Avec qui on est arrivé à quelque chose de plutôt très cool. Ça a été très compliqué, on va dire, parce que c'était un pote, donc forcément on veut travailler avec, mais lui était plus orienté sur du graphisme très visuel, sur de l'affiche, sur limite de l'art. Il travaillait avec des clients qui n'ont rien à voir avec des produits de consommation comme on a pu faire. Et du coup, on a eu du mal à vraiment trouver la bonne synergie. Donc, il a fait le logo. Et après ça, il a laissé le logo. Et j'ai recontacté une autre graphiste sur Strasbourg, Gabrielle Brun, qui a une marque de vêtements qui s'appelle Coupable, que je porte juste là. Et qui, elle, nous a fait toute la charte graphique. Donc, on lui a donné l'univers. Elle nous connaissait un peu. Donc, on a pas mal discuté avec Valentin, mon petit frère. Elle nous a fait quelque chose d'assez pop. Elle a vraiment compris l'ambiance et ce qu'on voulait dégager. Et elle nous a fait un truc qui est génialissime. La charte graphique, elle a créé plein d'éléments visuels qu'on peut retrouver sur le site, qu'on peut retrouver un peu partout. C'est ces taches orange, bleu et saumon. C'était tellement du bon boulot que les développeurs web, ils nous ont fait un site magnifique. Ils nous ont dit, mais le site, c'est la charte qui est trop belle. Donc, comme vous devez le savoir, c'est des choses très importantes. Plus on arrive à comprendre l'identité et la personnalité des gens, plus on arrive à faire quelque chose de précis, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Au-delà du produit, il faut connaître les fondateurs qu'il y a derrière pour rentrer dans leur tête.
Nous, on a été très chiants aussi. Très, très, très chiants. Surtout avec le premier graphiste, avec mon pote, parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, c'est comme la première fois qu'on achète un appart ou une maison. On est hyper exigeant. On a peur de tout. On croit que chaque petit détail est très, très, très important. Et au final, on tue la créativité du graphiste. Sans lui laisser la possibilité de s'exprimer. C'est pour ça qu'avec Gabriel, on lui a dit, écoute, fais, et c'est toi la boss, et on te laisse carte blanche, quoi.
Et puis, rien n'est figé, en fait. Chaque détail compte, certes, mais on peut aussi se tromper, revenir en arrière, et puis et s'ajuster.
Exactement.
Faut lâcher prise.
ouais, mais ça, c'est un grand sujet aussi.
Oui. Oui, je crois que on est une des générations d'entrepreneurs, et pas d'entrepreneurs, hein, où le lâcher prise, c'est un petit peu compliqué.
Parfait.
Et dans nos vies professionnelles, on le voit, hein, faut lâcher du lest.
Donc, vous avez parlé site internet. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme action de communication et justement des actions pour rester en adéquation avec votre valeur écologie, et comment vous organisez aussi pour votre communication?
Alors, on a commencé, on a eu la chance de commencer pendant le premier confinement à communiquer. Le projet, ça fait depuis 2019 qu'on est dessus, donc on a mis à peu près un an de recherche et développement, de trouver tous nos partenaires, de dessiner les moules, d'apprendre la couture pour faire les patrons des housses. Donc il y a eu un vrai travail de préparation. Puis le confinement est tombé et on s'est retrouvé, mon petit frère et moi, à vivre d'abord chez mon père, puis chez ma mère, mais à rester ensemble pendant 2 mois, ce qui a été génialissime pour créer du contenu, pour communiquer et pour lancer une page. Donc, on a commencé par Instagram. Moi, Facebook, ça faisait des années que j'étais plus, j'avais plus de compte, plus rien. Donc, j'étais sur Insta. On a commencé par se présenter. On a authentisé le produit que nos personnalités sur des choses hyper simples. On voulait faire de la qualité, mais on était mauvais à fond. On se filmait sur des interviews type Combini, là, où tu as le choix entre 2 réponses et t'en choisis une. Et ça a super plu aux gens. Puis, en fait, on était vraiment là pour... on n'avait pas encore de produit, donc on devait broder autour. Et c'est vraiment là qu'on a créé notre image, nos valeurs, et qu'on a pu fédérer des gens presque plus comme un influenceur, au final, que comme une marque. Donc, on a énormément travaillé sur Instagram. Ça a plutôt bien pris. Et en parallèle, moi, j'ai travaillé énormément sur LinkedIn parce qu'à ce moment-là, le reach, donc, c'est-à-dire l'opportunité de toucher du monde de façon gratuite en postant un article ou un commentaire ou quoi que ce soit, était énorme. Et vu qu'on lançait en même temps notre campagne Ulule, c'est-à-dire qu'on a lancé la page Instagram en avril, et en juin, on lançait notre Ulule, donc le programme de précommande pour nos gourdes. Sur LinkedIn, on a pu faire des scores. On a des posts qui sont montés jusqu'à 7000 likes, quoi, avec 400 commentaires. Donc, on a vraiment essayé d'utiliser tous les leviers possibles, gratuits, là où il y avait de l'attention facile à chercher pour communiquer et faire parler de nous, quoi. Donc, ça a été génial pour le Ulule. Ça a été vraiment ce qui nous a permis de décoller. Après, LinkedIn, je l'ai un peu mis de côté parce que ça demandait tellement de boulot. Quand les commandes sont tombées, qu'il faut commencer à préparer les gourdes, la logistique, il y a des sujets qu'on met de côté. Instagram, on a vraiment continué à travailler dessus. Et dans une deuxième phase, une fois qu'on avait fini nos précommandes et qu'on lançait officiellement le site Internet en octobre, septembre-octobre, là, on a fait une campagne de presse avec l'agence 360 degrés North qui a été extra parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la presse, en fait, pour passer un message. C'est une personne tiers qui vient parler de toi, donc les gens ont beaucoup plus confiance. On a eu la chance de passer sur Europe 1 à midi dans la France Bouge pour parler de notre projet. On a fait toutes les radios locales en Alsace, on a fait France 3 Télé, on a fait BFM Business, on a fait vraiment plein de choses qui nous a donné une portée assez incroyable et beaucoup de crédibilité aux yeux de notre audience, des gens qui nous suivaient, parce que tout d'un coup, ça devient vraiment concret. C'est plus juste 2 frères qui s'amusent dans leur jardin à faire des vidéos et à faire un peu les oeuvres. Non, ça se professionnalise et ça ramène plein de monde. ça ramène plein de monde.
Donc ça, c'est le côté cool qui marche. Et les difficultés, vous avez dû en rencontrer.
Alors, des difficultés, ça a été, il y en a eu que ça. Quasiment. Pour vous donner un avis, moi sur Ulule, on vend un peu moins de 400 gourdes en 3 semaines, ce qui est au final très bien, mais pour moi c'était nul. C'est-à-dire que moi je voulais en vendre 5000. J'étais déçu, mais comme pas possible. Je pensais que l'entrepreneuriat, je pensais que c'était beaucoup, beaucoup plus facile que ça. C'est-à-dire qu'on était tellement préparé et programmé à ça que je me suis dit non, mais ça va être trop simple. C'est trop simple. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et il y a plein de paramètres que tu ne peux pas forcément gérer. Il y a un moment où tu as un coup de chance. Alors, tout le monde dira la chance, ça se provoque, c'est clair. Mais tu as un coup de chance, c'est cool. Tu as un coup de pas de chance, c'est pas cool. Donc, on a eu beaucoup de soucis sur la production déjà, parce que créer un produit de A à Z, c'était rien de simple. Que tout fonctionne, je veux dire, on a vendu des gourdes avant même de savoir si elles ne fuyaient pas, quoi. Il y a plein de choses dans ce sens-là où ça a été un peu compliqué, où il a fallu batailler et travailler dur. Je veux dire, on a passé du temps à mettre les housses sur les gourdes, à les envoyer, à vérifier les commandes, pas faire d'erreurs. Et après, les vraies difficultés pour moi, elles sont arrivées après le lancement. C'est-à-dire qu'on fait une année 2020 qui est super, Ulule, plus la fin d'année avec Noël, avec tous les proches, tous les gens. On a énormément vendu. Puis 2021 a été une année très compliquée parce qu'économiquement, la France a arrêté de consommer un peu. Hein. Je veux dire, ça, c'était une chose. Et deuxièmement, le marché de la gourde commençait à se saturer. Parce que la gourde, c'est l'étendard de la révolution écologique. Toute personne qui a une conscience responsable ou qui souhaite améliorer sa consommation au quotidien, en général, passe par la gourde parce que c'est quelque chose de très simple et de très pratique. Donc, au final, on a vécu 3-4 années de folie sur le marché de la gourde. Ça se vendait, mais comme des petits pains partout. On en trouvait dans des boulangeries, dans des épiceries en vrac, dans tous les magasins de déco, de tout, partout. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de clients parce qu'une gourde, ce n'est pas fait pour être achetée tous les 3 mois. Donc, cette année 2021, ce qui a été très compliqué, c'est vraiment la chute du marché et de se dire, bon, bah, nous, on est encore tout petits. On a beau vendre nos gourdes, on ne se paye pas parce que pour sortir 1 200 € par mois à coût de 33 € la gourde, il faut en vendre quand même beaucoup, payer charges, etc. Quand on a fait nos articles de presse, on en a eu un par exemple dans 20 minutes qui a cartonné et qui a été relayé au niveau national, etc., qui nous a apporté énormément de trafic. Et sur les commentaires de cet article, on se faisait complètement descendre, mon petit frère et moi, parce qu'il me disait, ouais, c'est une bouteille, genre les gars, vous avez réinventé la gourde, enfin, genre, il se moquait un peu de nous. Et ça a été des choses très compliquées à vivre pour moi parce que j'étais là, les gars, je fais un truc juste pour que ce soit mieux pour tout le monde. Ça te plaît, ça te plaît pas, je comprends. Genre, il n'y a aucun souci, t'en veux une, t'en veux pas. Mais le jugement des gens, et ça a été encore pire après quand on a fait de la publicité sur Instagram et Facebook, tu tombes sur des gens très énervés, très frustrés. Mais ça te fait du mal au quotidien de te faire descendre ton produit, de te faire descendre ta démarche, etc. Ça met un coup au moral, ça te fait perdre énormément d'énergie, ce dont on parlait avant, parce que t'es touché et que toi t'as mis tout ton cœur là-dedans. Donc ça a été très compliqué. Et avec la chute des ventes, plus cette image qui collait pas des gens sur Facebook, enfin des commentaires, ça a été le plus compliqué à vivre et à garder le cap. Hein. On était même à un moment, je me suis dit, moi, j'arrête tout. Je ne suis pas là pour m'embêter non plus. Si ça ne décolle pas, ça ne décolle pas et ce n'est pas grave. Au final, on n'a pas lâché et il y a plein de belles choses qui sont arrivées par la suite.
Quoi. Et c'est les tests de l'entrepreneur, hein, de toute façon.
Ouais, tu n'as pas le choix. Et en fait, c'est très frustrant parce qu'on voit en même temps, j'ai vu beaucoup de marques qui ont décollé d'un coup parce qu'il y a eu énormément de marques qui sont créées à cette période-là, mais vraiment, oui. C'est incroyable. Et j'en ai vu qui ont complètement cartonné. Sauf que je voyais que la surface et que j'avais pas vu tout ce qui s'était passé avant, tout ce qui se passait dans le back-office. Et en fait, tu te rends compte que, bon, bah, certains, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Zeta, la marque de chaussures, elle a sorti un produit hyper intéressant, un discours hyper intéressant. Elle est super cool. J'avais fait un podcast avec elle. Elle est, Laure, elle est vraiment hyper sympa, hyper bien. Et le produit, il a explosé d'un coup. Mais parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour. J'en connais d'autres, par exemple, les Minimondes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui.
Super jouet que j'adore. Bah, eux, ils ont explosé, mais au final, quand on s'intéresse à leur histoire, ils ont fait d'autres choses avant. Ils ont eu d'autres échecs, ils ont eu d'autres apprentissages, et rien ne vient par hasard. Au final, il faut travailler, il faut le faire. Et ça peut être souvent difficile de se comparer quand on est dans l'entrepreneuriat. Je remarque même que nos réussites personnelles, quand on les partage avec d'autres entrepreneurs, ça ne leur fait pas toujours plaisir. Parce qu'on est toujours dans la comparaison. Mm-hmm. On ne souhaite pas de mal à personne. Mais quand quelqu'un a une bonne nouvelle et un truc cool, eh ben, tu te dis, putain, ben, moi pas. Ce n'est pas toujours facile.
Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'explosions de projets à ce moment-là. Hein. Le confinement, il a forcé les gens à se bouger, etc. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est compliqué aussi, par la suite, dans un deuxième temps, de continuer à se démarquer. Il y a une partie cachée qu'on ne connaît pas. Ça se trouve, il y a des gens, ça faisait 3 ans qu'ils étaient sur leur projet et d'être demain à la maison, bah, ça n'a pas laissé le choix. Ou il y a des gens, bah, non, ils ont créé leur projet à ce moment-là et ça a marché, ça a décollé d'un coup. Mais c'est vrai qu'on se compare et on ne souhaite pas le malheur, mais on se dit effectivement, hey, mais pourquoi moi, ça ne marche pas, quoi.
Voilà.
Ouais. Mais justement, pour arrêter dans cette comparaison de réussite ou pas réussite, moi, ce que je pense qui est important, c'est plus, bah, voilà, quels sont... Par exemple, pour vous, dans les moments de difficulté, les moments un petit peu compliqués, qu'est-ce qui vous permet de garder le cap? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous inspire?
Alors, il y a plusieurs choses pour garder le cap et pour ne pas avoir lâché et pour juste ne pas sombrer dans une complète dépression. j'ai ma copine qui est un point d'appui à toute épreuve, avec qui je peux parler de tout ça, échanger, même si on est très seul quand on entreprend. À côté de ça, j'ai quand même mon petit frère avec qui on a monté le projet, qui clairement me suit, mais qui va me permettre, si à un moment je dis bon, on arrête, il me dit ouais, on arrête, et qui va assumer les responsabilités avec moi et qui va me soutenir. Donc ça, c'est super important. Après, c'est dans le caractère quand même, c'est de la détermination, c'est de se dire j'arrête pas, j'y crois. C'est hyper compliqué de juger la résilience, de se relever après avoir pris des baffes, mais en même temps ne pas trop insister sur quelque chose qui marche pas, parce que des fois, en fait, tu as beau avoir une bonne idée, le marché n'est pas forcément prêt, tu ne l'as pas forcément bien exécuté, tu n'es pas capable de communiquer aux bonnes personnes. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et moi, de mon expérience, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de ne pas être dans des contraintes financières trop importantes. Parce qu'en fait, ce qui est le plus angoissant et le plus dur, c'est de ne pas arriver à boucler tes fins de mois, c'est d'être dans une galère financière réelle et de se dire, bah, en fait, là, je m'endette. Je ne sais pas où je vais, ça ne prend pas. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc là-dessus, il faut, pour moi, avancer pas à pas, pas trop investir d'argent avant d'avoir testé et vu les preuves de son produit et pas trop se prendre la tête en se disant qu'on est déjà arrivé au sommet, qu'on est déjà une grande marque. Parce que très vite, on peut se dire qu'on est très, tout en haut. Très vite, on peut se dire qu'on est tout en bas et faire le yo-yo émotionnel. C'est compliqué.
Dans l'entrepreneuriat, on devient vite bipolaire. Hein. On passe d'une extrême à l'autre tout le temps. On sait ce que c'est. Ouais. Et dans 5 ans, vous vous voyez où? Parce que bon, vous l'avez dit, le marché saturé, etc. Je pense que c'est quelque chose auquel vous avez pensé.
Bah, aujourd'hui, en fait, on a eu, sur l'année 2021, on a vendu à peu près 5 000 gourdes. On a fait environ 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais on a eu énormément de demandes d'entreprises. C'est-à-dire qu'à la base, on ne voulait pas vendre aux entreprises. De toute façon, notre produit était trop cher, etc. Et on a chiffré pour à peu près 500 000 euros de devis pour des boîtes. Le tout, dont 400 000 euros sur un mois en août. Tellement on a eu des demandes de petites, de grandes boîtes. on n'était pas du tout prêt, pas du tout structuré. Quand tu vends une gourde par 2, 3 et que tout d'un coup, on t'en demande 500, 1000, 5000, 10 000 changements d'échelle complets, les prix ne sont pas les mêmes, la relation avec le client n'est pas la même, le besoin auquel tu réponds n'est pas le même. Donc, on a eu énormément de mal à convertir tous ces devis parce qu'on était un peu perdu, parce qu'on ne savait pas exactement comment faire, on était mal structuré. Mais ça montrait quand même un intérêt assez fou parce que sur 500 000 euros de devis faits, on n'a pas démarché un seul client. C'est-à-dire qu'on n'a pas décroché notre téléphone une seule fois et on a autant de demandes et on a converti peut-être 50 000 euros. Donc, c'est quand même 50 000 euros qui rentrent. C'est toujours très intéressant. On a travaillé par exemple avec la Banque Postale, on a travaillé avec Asphalt, la marque de vêtements, 1083 jeans, Comme Avant Bio. Enfin, là, on est en discussion avec Yves Rocher. Il se passe plein de choses. Donc, nous, l'objectif, c'est de développer vraiment un axe B2B où on souhaite proposer en fait des gourdes vraiment éco-responsables aux entreprises, vraiment durables, des cadeaux originaux pour sortir du goodies, de l'accessoire qui ne sert à rien et permettre aux entreprises d'offrir quelque chose de vraiment cool que les gens vont pouvoir utiliser, qui transmet des valeurs intéressantes. Donc, on est en train de structurer notre offre dans ce sens-là. On a eu, à force de persévérance, il y a quelques mois, un grand groupe qui œuvre sur le marché français et européen qui nous a contactés, qui fait aussi bien du cadeau d'affaires que plein d'autres choses et qui souhaitait développer une gourde, mais qui aujourd'hui n'ont pas la capacité de le faire aussi bien que nous et qui veulent utiliser notre gourde comme leur produit à vendre, à développer. Donc, pour la petite histoire, on est en communication avec le directeur général qui nous avait appelé direct et on discute et lui me dit bon voilà, nous on veut un prix unique, on veut acheter votre gourde à un prix unique, que je t'en prenne 10 ou 5000, je veux le même prix pour que chaque fois moi je revends à mes clients et que je puisse m'adapter. Je lui dis ok, je lui prépare un prix unique parce que bon, c'est quand même compliqué. Et je dis mais moi il faut des quantités pour aller avec ce prix unique parce que je ne peux pas te donner ça. Enfin, c'est compliqué. Et je lui envoie ce mail. Au moment où je lui envoie, mon frère m'appelle, mon grand frère me dit qu'il vient d'être papa, que sa femme a accouché, trop bien, trop content. Du coup, moi, je descends vers Badvillers, dans le Haut-Rhin, pour aller fêter ça avec lui. Et je mets tout mon téléphone sur off. Je regarde pas les mails que j'ai reçus, on fait la fête. Et le lendemain matin, je me réveille, pas très frais, et je prends mon téléphone et le premier truc que je vois, c'est un mail de ce groupe. Et moi, je m'attendais, je veux dire, le plus qu'on a vendu aujourd'hui, c'est on a vendu 1000 gourdes à un client, quoi, ce qui est énorme. Et le mec me dit, pour la première année, on en veut 100 000, et si ça marche, on en prendra entre 500 000 et 1 million par an.
Oui.
Moi, je me suis arrêté. Je dis, mais là, on parle de toute autre chose. Là, je vais vous faire un prix unique, effectivement.
Oui. Nous, on réfléchit, on calcule le prix unique.
Il n'aura pas grand-chose à voir avec celui-là que je vous ai proposé. Mais hyper intéressant, hyper cool. Pour l'instant, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on a super bien avancé. Ils ont les échantillons. On a un énorme salon la semaine prochaine. Là, on va à Lyon pour les rencontrer, pour rencontrer tout le monde. J'emmène Valentin. On va voir toute leur équipe, présenter les locaux, etc. Ils sont peut-être même intéressés pour rentrer dans la boîte au capital. Enfin, il y a plein d'autres choses. Et nous, en fait, le développement qu'on a aujourd'hui pour Ecom, c'est on veut arrêter de faire de la vente. On veut plus s'intéresser à la vente en termes de B2B, je parle, on veut que développer. Nous, on est bon dans, on va comprendre un problème et on va trouver une solution. On est flexible, on va vite, on est jeune, on a encore l'énergie, on a toutes les nouveautés en tête, toutes les tendances. Et ce qu'on aimerait, c'est vraiment se spécialiser dans un studio de design, c'était l'objectif de base de toute façon, et proposer des produits que ce soit pour ce genre d'entreprise qui veut du produit plutôt de grande consommation ou du très haut de gamme. On va faire des petites pièces de façon artisanale. Là, on est en train de travailler sur des bijoux. Parce que ben, mon petit frère, il sait à peu près tout faire. Il sait fabriquer un moule, il sait fondre l'argent. Et donc, on va faire des bijoux à la main. On a envie de faire des lunettes. On a envie de faire un vélo électrique. On a déjà tous les plans, les prototypes, un sac. on a envie de créer plein de choses et toujours rester dans ces valeurs où on veut ramener plus de logique, plus de simplicité, pas de chichi et des valeurs éco-responsables, parce que pour nous, on ne peut pas créer quelque chose si ça n'apporte pas un plus et si c'est, ça ne répond pas à un problème. On ne veut pas créer de plus de déchets, quoi.
Donc, ECOB sera le nom du produit, mais il faudra un nouveau nom de boîte.
Ouais. Alors, le nom de la boîte, en fait, ECOB, c'est qu'une marque. Le nom de l'entreprise s'appelle Manufacture d'artistes et de projets. Qui, depuis le début, c'est le nom. La MAEP, ça existe depuis des années, parce que moi, vous voyez derrière, on aime bien dessiner. Mmh. C'est un collectif où je regroupe, on va dire, une dizaine de profils différents. Et je les aide à structurer leur offre commerciale par rapport à leur art. Donc, il y en a, ils sont designers, d'autres tatoueurs, graffeurs, certains graphistes dans la com, écrivains, un mélange de plein d'états d'esprit qu'on veut regrouper sous MAEP pour créer ensemble, développer et apporter cette nouvelle vision qu'on a du monde sans l'imposer aux gens, mais vraiment juste en la posant là devant et en disant, voilà, ceux que ça intéresse, nous, on fait ça. Et voilà, quoi.
Donc, ma question ne serait pas dans 5 ans, mais dans 10, 15, 20 ans, en fait. Il y a de l'idée pour plusieurs années.
Ouais, là, il y a de l'idée pour plusieurs années. Après, sur ECOB même, là, on est en train de travailler sur un nouveau projet qui est l'aromatisation de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, le marché est saturé. Si on veut attirer de nouvelles personnes à une consommation plus responsable, il faut leur donner une expérience plus importante.
Ouais, c'est le mot, l'expérience.
Et aujourd'hui, il y a deux acteurs principaux qui sont lancés sur le marché, qui s'appellent AirUp et Waterdrop. On s'est plus concentré sur Waterdrop que AirUp. Et on aimerait proposer une solution, déjà, qu'on va co-construire avec une grande communauté. C'est-à-dire que là, on est en train de rédiger un questionnaire pour déceler le besoin client. Et une fois qu'on aura diffusé ce questionnaire à grande échelle, on va créer une communauté de 500 personnes avec qui on va vraiment co-construire le produit, avec qui on va poser des questions sur la forme que ça doit prendre, l'utilité, d'où ça vient, les goûts, tout, pour qu'on ait un product market fit. Donc, product market fit, c'est que le produit correspond exactement aux besoins du marché, qui soit idéal et qu'on n'ait pas juste fait ça dans notre coin, qu'on ait pu échanger avec les gens. Donc, ça, c'est hyper important. Et à la différence de Waterdrop, on veut faire quelque chose de vraiment 100% naturel, qui soit hyper sain pour le corps et éco-responsable. Parce que le problème qu'on peut déceler aujourd'hui, on ne s'adressera pas à la même clientèle, on veut quelque chose de plus haut de gamme. Nous, on veut aller chercher les petits producteurs de plantes en montagne, qu'on va interviewer, qu'on va lui demander comment il fait, tout l'amour, toute la passion qu'il met dedans. Et moi, c'est ces extraits de plantes que je veux retrouver dans l'eau pour l'aromatisation. Je veux des choses très, très qualitatives pour proposer tout ça à des gens qui sont intéressés par l'aspect santé, etc. Donc, on est en train de le développer encore. On est en contact avec la ville, avec la BPI, avec plein de gens. C'est hyper excitant, c'est hyper cool. Et en ce moment même, on cherche un stagiaire pour s'occuper de tout le projet. On veut offrir une espèce d'expérience d'entrepreneuriat à un stagiaire qui est passionné par l'entrepreneuriat, qui n'a pas encore eu la chance de pouvoir se lancer et de lui dire, bah, écoute, tu vas prendre ma place là, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire et je dois me concentrer sur d'autres sujets. On va l'accompagner à fond, mais ça va être ton projet et tu vas devoir le développer. Tu vas voir toutes les phases par lesquelles un entrepreneur passe. Du client, de l'investisseur, de la banque, de l'industriel, du partenaire, de tout. Et tu vas pouvoir comprendre ce que c'est d'entreprendre. Ça va te faire gagner en expérience. Et si le produit marche comme on le souhaite, et ben, ça te fera une belle ligne sur le CV. Et pourquoi pas continuer à travailler ensemble ou laisser partir pour qu'il entreprenne ou qu'elle entreprenne. Enfin, voilà.
Mais c'est chouette parce que les valeurs, on le disait au tout début, c'est des choses simples, faut pas les chercher midi à 14h, etc. Mais en fait, elles sont même présentes tout de suite dans le process de création. Parce que aller voir l'avis de 500 utilisateurs, c'est bien pour faire un produit le plus juste possible. Donc, c'est bien. Les valeurs, c'est hyper important, mais il faut pas se casser la tête. En fait, elles sont juste en nous et il faut juste les sortir, quoi.
C'est des fois très compliqué. de comprendre qui on est, ce qu'on aime vraiment. Mais oui, plus on arrive à être nous-mêmes et simples, mieux c'est, quoi.
Mais c'est compliqué parce qu'on veut bien faire, on veut emmener notre produit, notre service, notre projet loin. On peut avoir des problématiques financières, des enjeux, etc. Oui. Donc, en fait, on se pourrit la tête avec plein de choses et on n'arrive pas à ressortir l'essentiel.
Oui, et je pense qu'il y a un gros problème aujourd'hui autour des valeurs. C'est que des valeurs, c'est hyper important pour vendre, mais des valeurs, ça ne suffit pas pour vendre. C'est-à-dire que ça va permettre d'engager les gens, ça va permettre de créer une communauté, ça va permettre d'avoir beaucoup de monde qui nous suivent, mais en soi, ça ne suffit pas pour vendre. Si le produit ne répond pas à un vrai besoin, on a beau avoir de belles valeurs, ça ne suffira pas.
Oui, non, c'est clair, il faut avoir un projet quand même construit et quelque chose de solide derrière, sinon...
Souvent, aujourd'hui, surtout avec cette vague d'entrepreneuriat qu'il y a eu, on a retrouvé beaucoup de marques de fringues, par exemple, qui portaient de belles valeurs, et vraiment cool. Mais en soi, l'expérience client, elle n'était pas assez aboutie, elle n'était pas assez profonde. Et du coup, bah, c'est super, c'est des projets que tout le monde soutient. Mais derrière, peu de gens achètent parce que c'est hyper concurrentiel, parce qu'il y a énormément de monde, parce que le produit ne correspond pas exactement à un besoin du marché. Et c'est très compliqué parce que c'est des gens qui font les choses super bien. Et moi, nous les premiers, on fait les choses super bien, mais ça ne convertit pas derrière. Et du coup, ça peut être très, très déstabilisant, très dur. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'essaie de faire au mieux et ça ne suffit pas. Donc voilà. Faut garder cette notion. On est quand même dans un monde de business capitaliste. Il faut vraiment être sûr d'être en accord avec le fait de vendre et qu'il faut vendre. Il faut faire du marketing, faire de la com. Il faut convertir les gens. C'est-à-dire quand ils passent sur le site, l'objectif c'est que ils achètent. Si c'est pas l'objectif, il faut créer une asso, il faut faire autre chose, quoi.
C'est clair.
Qui est tout à fait louable aussi. Je ne suis pas dans le jugement. Mais voilà, si on veut faire du business, il faut faire du business.
Oui, c'est sûr, il y a le business, mais ce que je trouve intéressant dans tout ce que vous avez dit, c'est moi, le mot qui me sort tout de suite maintenant, c'est le mot partage. Vous donnez, en fait, vous partagez vos valeurs. On le voit autant dans les ressources humaines, dans la recherche de votre stagiaire, mais aussi voilà, avec la co-création d'un produit. Bah, vous partagez, en fait, tout ce que vous avez envie de développer, vous partagez vos différentes valeurs. Et c'est ça, en fait, votre force.
Bah oui, mais c'est parce que je ne sais rien faire. Du coup, je m'appuie sur les gens autour. Comme vous voyez, j'étais très enthousiaste à l'idée de ce podcast parce que j'adore échanger, j'adore parler avec les gens, j'adore. Je pense que la crise du Covid m'a beaucoup affecté à ce niveau-là parce que moi, j'aime rencontrer des gens, j'aime sortir dans un bar le soir et discuter avec des gens. Et quand j'entreprends, il n'y a qu'une chose qui me motive, bah, c'est faire émerger des idées. Et pour ça, on ne crée rien, on ne fait qu'un assemblage de ce qu'on a pu croiser dans notre vie, de prendre un peu par là et par là. Et c'est la plus grande des richesses que de pouvoir rencontrer des gens et échanger, quoi.
Donc, vous voyez, ce n'est pas des simples gourdes.
Non. C'est, bah alors, pour moi, dans tous les cas, ça ne sera jamais une simple gourde. Quand je vois des images sur Instagram, je me dis que c'est quand même qu'une gourde.
Mais voilà, vous partagez, vous donnez, et en fait, en donnant, ben, on reçoit aussi. Et qu'il ne faut pas hésiter à donner de soi, donner, montrer justement ses valeurs pour finalement recevoir et toucher une communauté, toucher une cible qui nous correspond et qui a envie de nous suivre.
Bien sûr. Et vous, de votre côté, vous accompagnez quel type d'entreprise ?
La plupart de leurs problématiques, c'est on a une clientèle qui est déjà là depuis longtemps, mais en fait, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Et c'est incroyable quand même parce qu'ils ont tous ce même problème. Les gens ne savent pas ce qu'on fait. Ils nous appellent toujours pour la même chose alors qu'on fait mille autres choses. Du coup, c'est vraiment les repositionner et les faire connaître que, je ne sais pas, moi, par exemple, un chauffagiste, il ne fait pas que régler le chauffage. En fait, il y a plein d'autres choses derrière. Et parce qu'en fait, la vie, elle a évolué en 30 ans et que maintenant, un artisan, c'est un artiste. Il fait plein de choses et que sans lui, la maison, elle ne tient pas toute seule. Donc, c'est vraiment les repositionner Et puis, c'est pas les détacher de cette image du petit artisan. En fait, on est carrément au-delà de ça. Maintenant, il y a un savoir-faire qu'on veut mettre en lumière. Et je pense aussi qu'eux, ils ont besoin de mettre en lumière pour une satisfaction aussi personnelle, un peu de valorisation de leur métier.
OK.
Je pense qu'on est complètement là-dessus. En tout cas, moi, pour mes clients. Toi, c'est vrai que c'est pas... On n'a pas tout à fait les mêmes...
Ben, c'est vrai que moi, au-delà voilà, des repreneurs d'entreprises, etc., moi, c'est plus les entreprises. Ben, voilà, elles ont testé le marché, elles ont fait 1, 2 ans, 3 ans. Souvent, 3 ans, hein, c'est l'année un petit peu où on se pose des questions. Et elles ont envie de se développer. Elles ont plein d'idées, plein de projets, mais elles n'osent pas. Et okay. Là, c'est vraiment quel est le déclic ? Comment oser ? Comment se structurer ? Beaucoup se disent « Ah oui, mais je ne sais pas comment faire. » Et beaucoup de remises en question, alors que finalement, derrière, la stratégie est là. Rien que le mot stratégie fait peur, mais finalement, la stratégie est longue. Ça peut être autant profession libérale, métier du bien-être qu'artisan. Hein, je travaille aussi avec beaucoup d'artisans. J'aime bien le mot, on en discutait récemment avec Chloé, mais le mot des entreprises engagées. Mais engagées dans tout, engagées dans leur entreprise, engagées parce qu'elles ont envie d'avancer, mais aussi engagées bah voilà, pour l'avenir, pour nos enfants, etc. Et tout ça, c'est, enfin moi, c'est surtout c'est ce type de personnes, ce type d'entreprise que j'ai envie d'accompagner.
Après, c'est très compliqué aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui nous déresponsabilise quand même un maximum. Et on a très vite des excuses face aux échecs ou aux mauvais choix qu'on peut faire, alors qu'au final, eh ben, on est les seuls responsables de tout ce qui nous arrive. Comme je disais avant, c'est sûr qu'on peut avoir un coup de chance ou un coup de malchance, mais tout le monde s'en fout. Je veux dire, il peut vous arriver quelque chose de mal dans la vie, tout le monde s'en fout, c'est votre problème. Et le jour où vous comprenez qu'il n'y a que vous qui êtes en capacité de le régler, bah, tout va aller beaucoup mieux parce qu'on ne dépend pas des autres, on ne subit pas la vie, mais on la prend en main et on y va, quoi. Des fois, ça peut être super triste, des fois, on peut se dire bah, c'est pas cool. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas être empathique avec les gens, hein, du tout. Mais à un moment, un problème, c'est votre problème et ça vous le régler, sinon, ça ne se réglera pas. Hein.
C'est ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye aussi de beaucoup, beaucoup répéter, c'est que nous, on n'est pas neurochirurgien. On n'a pas un métier qui va changer la face du monde, mais on fait que de la com. Du coup, c'est pas grave. Donc, faut le faire parce que c'est pas dramatique. On peut se tromper, rebondir et voilà. A priori, quand on vient nous voir, on ressort en vie parce qu'on risque pas sa vie en venant nous voir. Donc, a priori. Donc, c'est pas grave. Faut dédramatiser.
Ouais. Non, c'est clair.
Et ça passe beaucoup plus cool après.
Complètement d'accord. Mais comme dit, il y a tellement de paramètres. Moi, je sais que la pression financière et le yo-yo émotionnel de l'entrepreneuriat, vous vivez aussi. Parce que bon, j'imagine qu'il y a des moments avec des clients, quand ça ne se passe pas bien et que ça met trop de temps, on se dit quand même que là, on est en train de pas partir dans la bonne direction. Mais ça fait partie du jeu et c'est après, on revient sur les valeurs, on revient sur le cap, sur tout ça. Où est-ce qu'on veut aller? Pourquoi on y va? Est-ce qu'on a toujours envie d'y aller? Oui, non. Et voilà, faut simplifier le tout.
Ouais, puis il faut se trouver nos propres motivations. On est toutes les deux mamans. Et c'est vrai que des fois, quand ça ne va pas et qu'on veut lâcher, on se dit non, en fait, parce que l'avenir, il n'est pas que pour nous. Il est allez, de toute façon, j'ai trop engagé. Donc il y a un moment donné, il faut y aller.
Voilà.
Il n'y a pas de choix.
Je suis assez d'accord.
Ouais, et moi je me dis aussi que voilà, quand on se lève le matin et qu'on se dit qu'on va faire ce qu'on aime et qui est on a nos valeurs qu'on peut mettre en avant, etc., qu'on reste aligné avec nous-mêmes, et bien finalement, même s'il se passe des merdes dans la journée, bah c'est pas grave. On fait quand même ce qu'on aime, et ça c'est magique.
Clairement.
Et le jour où on ne se lève pas avec cette motivation-là, c'est que là, il faut se poser les bonnes questions.
Bah, c'est qu'on n'est plus aligné et qu'il faut justement remettre les choses bien en ordre.
C'est clair. Mais je pense qu'à ce moment-là, tu t'arrêtes. Hein, parce que bon, être heureux de ce que tu fais et aimer ce que tu fais, c'est essentiel. Le jour où ce n'est plus le cas, tu n'es plus capable de supporter toute la pression et tout ce qui va avec. Parce que bon, c'est se faire vraiment du mal pour se faire du mal.
Exactement. Donc maintenant, on n'a plus qu'à souhaiter longue vie à tous vos projets. Et on se redonne rendez-vous dans 10 ans. Et là,
pour faire le point.
Ah, même avant.
Même avant.
Avant. Mais ouais, carrément, c'était très cool en tout cas. Merci pour tout.
Merci à vous.
Super échange.
Et s'il y a un message à faire passer, vous recherchez quoi? Parce que bon, moi, j'ai quand même l'oreille qui traînait des investisseurs pour prendre la partie tout logistique et tout. Ça peut être cool, ça.
Alors, des investisseurs, on a, On a un peu de tout. En fait, nous, en termes de logistique, on travaille avec un ESAT, un pôle de travailleurs en situation de handicap, depuis le début, parce que de mon ancien métier, j'étais déjà rentré en contact avec eux. On crée aussi des logements adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc je connaissais bien ce milieu. Et ils proposent un rapport qualité-prix qui est surréaliste, parce que l'objectif de ces établissements, ce n'est pas de rentabiliser financièrement, c'est de faire monter en compétence un travailleur. Mmh. Donc, on va créer un projet. Eux, ils cherchent des entreprises qui sont prêtes à prendre le temps de créer un projet pour faire évoluer ces travailleurs. Et ces travailleurs, ils sont super bons. C'est hyper cool d'un point de vue personnel. Et financièrement, c'est hyper intéressant aussi. Aujourd'hui, nous, on cherche vraiment un stagiaire, quelqu'un de motivé à endosser le rôle d'un entrepreneur. Quelqu'un d'autonome qui a envie de tester ça et qui peut se dire ce produit, nous l'objectif c'est de chercher le marché national, c'est d'être partout, c'est de vraiment grossir sur l'aromatisation de l'eau. On a déjà les investisseurs qui nous suivent, on est déjà en contact avec les bonnes personnes. Maintenant, moi je veux prendre quelqu'un, le mettre au milieu et lui dire on va voir ce que tu donnes. On va l'accompagner forcément, je vais être derrière, moi je ne peux pas lâcher comme ça, mais j'ai envie qu'ils puissent ressentir tout ce que c'est d'être entrepreneur, parce qu'il va faire du super boulot et qu'on va faire du super boulot ensemble. Et voilà quoi.
Bon, on vous souhaite de trouver la perle rare alors. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et on reste en contact par la suite par mail.
C'était super chouette. Merci pour l'échange.
Ouais, c'était top.
Trop bien. À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très vite pour un prochain épisode.